Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission un peu exceptionnelle en ce début de mois de juin, qui en plus est le 6 juin, donc le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Hein, donc un jour un peu spécial et peut-être que c'est pour ça qu'on a eu des petits problèmes pour arriver à se connecter sur le serveur. Je vais de suite accueillir Jean. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Parfaitement, oui, bonsoir Cédric.
Oui, bonsoir Jean. Donc comme je l'expliquais, on a eu des petits soucis pour arriver à se connecter. Est-ce que c'était un signe justement par rapport au 6 juin, le jour de débarquement, hein, enfin plutôt l'anniversaire on va dire de ce débarquement en Normandie. D'ailleurs, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à dire par rapport à ça pour commencer cette émission?
Ah, ben, le 6 juin 44, c'est une grande journée. Ce que je reproche toujours, d'ailleurs, on parle beaucoup du 6 juin, c'était une journée importante, bien entendu, dans le contexte de la libération de l'Europe et de la France en particulier. Ce que je déplore un petit peu, mais je suis pas le seul à le faire, c'est que le débarquement qui a eu lieu au mois d'août en Provence, à Saint-Tropez, enfin toutes ces plages-là, débarquement par des Américains, mais surtout par l'armée constituée de pieds noirs et de gens qui habitaient en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il y avait 150 000 pieds noirs mobilisés quand même, hein,
oui.
Sur 1 million d'habitants, hein, moins d'un million d'ailleurs. Donc ce débarquement a été très important, parce que sans ce débarquement, je me demande si le débarquement de 6 juin aurait eu des conséquences aussi bénéfiques qu'elles ont été. Hein. Mais on n'en parle pas beaucoup, ce débarquement. Alors bon, c'est vrai que sentimentalement, mon père y était dans ce débarquement. Il a débarqué à Saint-Tropez. Il m'en a beaucoup parlé de la guerre qu'il a faite là. Il a pourchassé les Allemands, tout ça, etc. Mais je déplore un peu qu'on n'en parle pas. Mais on parle beaucoup du 6 juin. Bon,
oui.
C'est comme ça. Alors bon, ben voilà, il y a 75 ans, on a libéré la France. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, rien de particulier, mais c'est, voilà. Maintenant, on fait une commémoration. Tout ça a des, comment dire, prend des aspects politiques actuels, hein, puisqu'il y a Trump, chacun fait son petit discours, etc. Donc, bon. Voilà, mais je n'ai rien de particulier à noter sur ce sujet, en fait, tu vois. Bon.
D'accord. Il y a aussi, c'est vrai que moi j'en ai un petit peu parlé parce qu'on parle souvent du débarquement, mais on oublie quand même aussi les résistants français qui sont quand même très importants. Hein, je pense qu'il faut quand même le souligner parce que sans eux, le débarquement n'aurait pas réussi. Hein.
Ah ben sans la résistance, effectivement, le débarquement n'aurait jamais pu se passer de cette manière et peut-être qu'il n'aurait pas réussi, c'est possible. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est que dans le 6 juin 44, les Américains ont débarqué, les Canadiens, etc., il y avait quand même 177 Français, militaires français, dirigés, commandés par un officier qui s'appelait Kieffer, je ne sais plus son prénom, et ils ont débarqué sur les côtes bretonnes, hein, ça on ne le dit jamais, mais il y a eu des Français qui ont débarqué et qui sont venus pour libérer la France. Mais c'est vrai que comme tu disais, la résistance a joué un rôle très 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 important. Bien sûr, oui, mais la France a participé à sa manière, elle n'avait plus d'armée, mais elle a participé à sa manière, et elle a été très efficace, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment.
C'est vrai, on n'en parle pas.
Sans l'efficacité des résistants, ils ont été efficaces, hein. Ils ont été très efficaces parce qu'ils étaient bien organisés, Et sans cette efficacité, c'est un fait que les Américains auraient pu être rejetés à la mer par les Allemands, hein, c'est pas.
Oui, parce que c'est vrai que quand on voit comment ça s'est passé avec un effectif réduit, on imagine avec un effectif complet, quoi.
Bien sûr, oui, c'est possible, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Maintenant quand on parle de ce qui se passe, des faits de guerre et tout ça, on peut toujours en parler. On oublie parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais par qui ont été commandées ces guerres, par qui elles ont été financées, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces guerres aient lieu. Et ça, on n'en parle jamais. Chacun donne sa raison, mais c'est rarement la bonne raison, quoi. En fait, elle est financée, toutes ces guerres sont financées par les mêmes, qui financent, pour notre guerre, la guerre avec l'Allemagne, les mêmes ont financé les Allemands et les mêmes ont financé les Anglais. Donc, à partir de là, quand on comprend ça, on peut se demander à quoi ça a servi tant de morts, quoi. Pourquoi il y a eu tant de morts? Pourquoi il y a eu des guerres, quoi? Pourquoi ces guerres? Mais quand on regarde, quand on fouille un petit peu, on comprend que ben, ces guerres, elles ont profité toujours aux mêmes, quoi. Les riches d'avant étaient encore un peu plus riches, et les pauvres toujours un peu plus pauvres, hein.
Malheureusement.
Mais les pauvres, soit ils étaient plus pauvres, soit ils étaient déjà morts, hein, parce qu'ils ont fait la guerre pour les riches, quoi. Donc c'est toujours un petit peu comme ça. Ce que je vois, c'est ça. On peut remonter depuis 200 ans, toutes les guerres qui ont eu lieu, en fait, ça a toujours été à peu près le même scénario. Hein. Ces guerres ont toujours été manipulées par certains pour des intérêts occultes, complètement inconnus, invisibles aux yeux de la population en général. Et après, on fait des guerres, et les gens ne savent même pas pourquoi ils se tirent dessus, quoi. Enfin, voilà, ça, je trouve ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez,
Oui,
quoi.
c'est vrai, c'est vrai. Et faut pas oublier que quand même que la guerre c'est le plus gros commerce mondial, hein. C'est ce qui génère le plus d'argent, hein.
Ah ben, bien entendu, à chaque fois qu'il y a des guerres, les Rothschild se sont trouvés toujours de plus en plus riches, hein. Il n'y a pas que les Rothschild, hein. La guerre de 39-40-45, il y a eu les Bush qui ont fait fortune, les Jordan, les Morgan, enfin bref.
Goldman Sachs. Hein.
Oui, Rockefeller, etc. Donc, tous ces gens-là, voilà. Parce que le monde est gouverné par la finance depuis déjà bien des décennies, quoi. Et donc, de temps en temps, il faut une guerre pour. Voilà, mais ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui décident qu'il y ait une guerre ici ou là. Ce ne sont pas nos chefs, nos politiques. Enfin, voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne le dit pas assez. Voilà. On ne dit pas assez. Ça, c'est. Voilà. Mais c'est une vérité. D'ailleurs, c'est marrant parce que de parler de ça m'amène à quelque chose qui me préoccupe depuis pas mal de temps. C'est la démocratie. Tu vois, là, je passe d'un sujet à l'autre, mais en fait, on parle toujours de la même chose, quoi. Parce que la démocratie, il y a eu des élections, hein, récemment, hein, tu es au courant, Cédric, il y a
Oui,
eu des élections européennes, hein,
tout à fait.
et il y a eu beaucoup, beaucoup de débats, hein, beaucoup d'encre versée, beaucoup de discours, beaucoup de. Alors on en a dit des choses et les médias se sont emparés de ça depuis des semaines et on ne parlait plus que de. Alors pour ce qui nous concerne en France, on a parlé plus que du combat de Macron et Marine Le Pen. Hein. Ça s'est résumé un petit peu à ça, quoi. Ce qui a eu pour résultat que toutes les autres listes ont été désertées par la plupart des votants. Voilà, comme s'il y avait une guerre entre les deux. Enfin, voilà. Mais ça, c'est une manipulation de la presse encore, hein, bien sûr.
Oui, comme souvent, malheureusement. Comme souvent.
Moi, depuis pas mal de temps, je ne suis préoccupé pas de ce que ça veut dire la démocratie, tu sais. Et d'ailleurs, on n'a jamais été dans un système démocratique. Et ça, les gens ne le savent pas, les hommes politiques ne le savent pas, ou bien ils le cachent. On parle toujours de démocratie, il faut toujours revenir à la démocratie. on emploie ce mot un petit peu à tort et à travers, quoi. Et les hommes politiques, ils se gonflent d'orgueil en parlant de démocratie, qu'ils sont des démocrates, etc. En fait, il n'y a pas de démocratie du tout, hein.
Non, tout à fait.
Il n'y a plus de démocratie. À partir du moment où on vote, bah, déjà, c'est antidémocratique, le simple fait de voter. Mais depuis des décennies, les hommes politiques nous demandent de voter parce que d'aller voter, c'est tout le contraire. Hein. Et on nous dit souvent, ah, mais vous savez, on est dans un pays où on a le droit maintenant de voter quand même. Hein. C'est ça la démocratie. Eh bien ça, le fait de voter, pour moi, c'est antidémocratique. Et là, c'est encore un énorme mensonge. Et les gens ne réfléchissent pas. Ils croient que de voter, c'est démocratique. Pas du tout. La démocratique, c'est démos kratos, c'est le pouvoir par le peuple. Et bien, quand on élit quelqu'un qu'on ne connaît même pas, hein, on élit quelqu'un, on va voter pour un type ou une femme qui va exercer ses fonctions ensuite pendant 5 ou 6 ans. Donc il va nous représenter, mais il ne représente rien du tout parce qu'une fois qu'il est élu, il fait absolument ce qu'il veut.
Oui, ou ce qu'on lui dit de faire aussi.
Oui, en tous les cas, il ne fait pas vraiment ou pas du tout ce qu'il a promis dans son programme et pour lequel des gens ont voté pour lui. Hein? Et donc ensuite, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que aucun pouvoir sur lui. Donc le peuple a perdu complètement son pouvoir. Et si le peuple a perdu son pouvoir, alors on n'est plus dans un régime démocratique. On est dans un régime, ou alors on va appeler ça c'est plus une démocratique, c'est plus une démocratie. Hein, je sais pas, ça s'appelle, faut trouver un nom.
Une oligarchie.
C'est une oligarchie. Voilà, exactement. Parce que les gens qui sont élus, ils vont retrouver les autres élus. Et ils forment une caste tout à fait spéciale, hein, très minoritaire dans le pays, et ce sont toujours les mêmes, peu ou prou, qui sont élus et donc dirigent le pays. Et le peuple les regarde faire et ne peut rien faire, ne peut rien du tout. On ne peut pas contrôler. On peut pas contrôler nos élus. Ils sont élus pour un nombre d'années. Alors on dit ouais, mais alors la sanction va venir aux prochaines élections.
Oui.
C'est drôle, quand on dit ça, on a l'impression de parler à des enfants. Ça sert à quoi de dire ça? Pendant 5 ans, il a le temps de faire des bêtises et de faire des sacrés massacres. Hein.
Oui, et c'est surtout que la sanction en fait n'existe pas parce que les partis politiques n'existent pas en France. Voilà. C'est un seul et même parti.
En fait, après, quand on commence à parler de ça, parce que une vraie démocratie interdirait qu'il y ait des partis politiques. À quoi sert un parti politique? À rien du tout.
Bah oui.
Un parti politique, il sert à conforter, à renforcer toujours les mêmes élus. Hein? Et on fait croire aux gens que c'est. Voilà, on fait croire que c'est. Leurs idées, ce sont des. Enfin, c'est jamais les idées du peuple. C'est toujours les idées de certains. La Constitution, les lois sont faites par certains, toujours les mêmes, une petite minorité. Jamais le peuple se mêle de faire une loi. Jamais le peuple ne s'est mêlé d'écrire la Constitution qui régit notre société. Elle est écrite par les élus. Mais les élus, ils représentent quoi? Qu'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de démocratie. Enfin, on peut prendre ça par n'importe quel bout, on s'aperçoit que le peuple ne dirige rien. Il n'a aucun pouvoir. Et donc, on n'est pas en démocratie. C'est extraordinaire quand on se rend compte de ça. Il n'y a pas de démocratie, quoi.
Eh oui, comme il n'y a
Bon,
pas
pour
eu de
moi,
démocratie.
c'est vrai que les dernières élections m'ont fait réfléchir beaucoup à ça. Encore que ces élections ne servaient pas à grand-chose, parce qu'on envoie au Parlement européen des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ça sert pratiquement à rien. Mais ce sont des élections, et on envoie des gens. Alors, il y a des gens qui ont élu, ont voté pour un tel ou un tel ou un tel, et qui vont à Bruxelles, et on ne va plus les voir pendant, je ne sais plus combien de temps ils sont élus, 5 ans. Hein. Ben pendant 5 ans, tu ne vas plus les voir.
Oui.
On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait rien du tout de ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas de la démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Et Ça m'a permis de réviser un petit peu comment la démocratie est née en Grèce il y a quelques siècles avant Jésus-Christ, hein. Et ça marchait très bien pendant 200 ans à peu près. Ça marchait très très bien. Mais il n'y avait aucun parti politique, hein, parce que le parti politique, c'est... Et la politique, celle dont on parle maintenant, c'était pas du tout un métier. Il n'y avait pas de politique. Mais la politique, chacun faisait de la politique. Chaque habitant était concerné par les décisions qui étaient prises. Et ça, c'est la démocratie. Et en fait, comme il n'y avait pas d'élection, c'était par tirage au sort. Et donc, ils élisaient un parlement comment ils appelaient ça, la bulle, je crois. C'était le parlement des 500, 500 qui étaient élus par tirage au sort, tous les ans, renouvelés tous les ans. Et les 500. Mais il n'y avait pas de... Comment? C'est fou. Quand on réalise ça, et puis comme on voit dans nos pays occidentaux, il n'y a pas qu'en France, hein, en Espagne, Italie, Angleterre, c'est un peu pareil. On voit des gens dont le métier, c'est la politique. C'est complètement aberrant, une chose pareille. Ça ne devrait jamais exister. Ça ne devrait pas exister. Et pour ces gens politiques, faire de la politique, ça veut dire se maintenir toujours en tête. Toujours élu quelque part. Donc, faire de la politique, ça veut dire manigancer, faire un discours pour influencer le peuple, etc. Donc, c'est un travail de psychologie, mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est faire des lois au bénéfice des gens qui vivent dans le pays. C'est ça la politique. Est-ce que tu vois?
Oui, tout à fait.
On a dévié complètement le sens. De cette belle chose qui s'appelle faire de la politique. Mais la politique. Hein, c'est comme, là, j'ai suivi un petit peu Wauquiez a démissionné. Alors, il y en a quelques-uns qui commandent, ils vont refonder le machin. Ça fait rire, ça, on dirait qu'on se trouve dans une cour d'enfants de maternelle. Ça fait que rire, ça. Est-ce que tu vois? Bien sûr, mais si on les laisse faire, tant qu'on les laisse faire, eh bien, on sera dans un régime qui sera, c'est pas tout à fait la dictature, mais ça y ressemble beaucoup. Hein? Ça y
Bah,
ressemble beaucoup.
toute façon, toute oligarchie finit toujours plus ou moins à long terme sur une dictature. Plus ou moins. Voilà. Je ne suis pas spécialiste dans ça, mais je me suis informé un petit peu sur les différentes dérives politiques. Et c'est comme ça que Hitler, à un moment, il est arrivé au pouvoir. Et puis en plus, il est arrivé au pouvoir comment? Bah, grâce aux classes des riches, encore une fois. Sans ça, il ne serait pas arrivé là où il en est arrivé, hein.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, mais bien sûr. Enfin, voilà, c'est mes réflexions depuis quelque temps m'amènent à réfléchir là-dessus. Et j'ai rencontré un monsieur, déjà un peu âgé, mais alors d'une jeunesse absolument incroyable, qui s'appelle Marc Averrousse. Alors, il est peu connu, et pourtant, il a écrit pas mal de livres. C'est un scientifique à la base. Et il a écrit justement un livre qu'il appelle Démocratie, ombre et lumière. Et il a fait un travail remarquable. Malheureusement, son livre, on ne peut pas le trouver, il n'est pas en vente, il l'a pas édité. Et je le pousse maintenant à vraiment à le reprendre son livre et trouver une maison d'édition parce que c'est un livre remarquable. Et c'est marrant parce qu'on se connaît depuis peu et pourtant on avait les mêmes idées. Moi, j'avais écrit un article. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, sur justement le depuis 89, qu'est-ce qui s'est passé en France? Et je mettais en avant le fait que toutes les révolutions que nous avons eues, elles n'ont rien amené, sinon que les riches se sont retrouvés un peu plus riches, les pauvres toujours un peu plus pauvres. Mais c'est à peu près toujours les mêmes. Ça, rien ne change. Donc. Aucune révolution n'a amené un progrès. Rien. Rien, mais rien du tout, quoi. Alors, la révolution de 89, le seul changement, c'est que la caste dominante, la monarchie, a laissé place à une autre caste dominante qui s'appelle la bourgeoisie. Hein. Et rien n'a changé. Et rien n'a changé. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Hein. D'ailleurs, Seyès, Essayas, qui était un homme politique important après la révolution 95-96, c'était lui qui a créé le directoire. Lui disait, la France, il ne peut pas y avoir de démocratie en France. Et il a fait de telle sorte la constitution qui a créé le directoire, en quelque sorte. Et il a fait en sorte que, justement, le peuple n'ait pas le pouvoir. Mais personne ne s'en est rendu compte. Et en fait, il a écrit cette constitution, et l'esprit de Sieyès est toujours d'actualité. Donc, France ne peut pas être une démocratie. Il le disait, et ça a toujours été le cas. La France ne peut pas être une démocratie. Voilà, voilà moi ce que j'en pense. Mais Marc Averroes, il le décrit très bien dans son bouquin. J'espère qu'un jour, je vais essayer de l'aider, mais il faudra qu'on trouve vraiment le moyen de le faire éditer, ce bouquin. C'est un bouquin absolument sensationnel.
Ouais. Et s'il est autorisé? Parce que ça, c'est
Alors,
pas sûr.
s'il est autorisé, c'est pas sûr. Alors,
Ouais.
c'est vrai que peut-être qu'on aura du mal à. Mais on va s'y atteler là, parce que c'est un livre remarquable. Vraiment. Ou alors on va je sais pas. On va faire en sorte de, on va trouver un moyen. Je pense avec, comment ça? Il y a des sites qui permettent de faire un livre et de le vendre sur Amazon ou des choses
Oui,
comme ça.
c'est je crois que les éditions et des livres, des choses comme ça.
Edilibre, voilà. Edilibre. Il y a aussi e-book,
E-book, oui.
je sais plus comment. Donc là, il faut que je creuse un petit peu la question. Mais il faut que ce livre soit à disposition des gens parce qu'il est absolument remarquable. Remarquable. Il a fait un travail de scientifique, en quelque sorte, mais d'historien. Un vrai travail d'historien. Il a cherché et il a passé en revue, justement, les révolutions. C'est exactement le travail que j'avais fait, mais moi, je l'avais fait en 2 pages, lui, il l'a fait en un bouquin. C'est différent. Moi, je ne suis pas scientifique, moi. Je n'aurais pas eu la patience de faire tout ce travail, ça m'aurait pris toute une vie. Mais lui, il a fait ça. Voilà. Donc, la démocratie, ombre et lumière. J'espère qu'un jour, ce livre sortira très bientôt, parce que vraiment, et il éclaire vraiment ce que nous sommes en ce moment, hein, ce que nous vivons. Hein.
Oui.
Voilà. Ouais. Voilà ce que je pense au sujet de la démocratie. Et bien sûr, on s'en éloigne de plus en plus. Hein, en ce moment, bon. Bah.
Là, oui, à grands pas.
Oui. Ben oui, il semble que les gens de l'ombre mettent les bouchées doubles pour nous réduire. Voilà. Alors, je suis tombé sur une vidéo de Michel Onfray. Tu connais Michel
Oui,
Onfray?
je connais, oui.
Et là, je trouve très intéressant. Cette vidéo qu'il a donnée, une interview qu'il a donnée à, comment s'appelle cette journaliste Polony,
Oui.
son prénom, je ne sais plus.
Ah, je sais plus non plus, mais oui, elle a créé une web TV.
Oui, voilà. Et donc, il y a une vidéo entre elle et lui, remarquable, où il reprend un peu ce que je viens de dire. D'ailleurs, le titre de cette vidéo s'appelle La vraie démocratie. Très intéressant. Dans une dictature qui nous tue doucement, enfin, ça c'est sa phrase. Hein. Bon, voilà. La vraie démocratie. Voilà, c'est une vidéo que j'ai mise sur. J'ai trouvée, là, que j'ai mise sur ma page Facebook. Je ne sais pas si tu l'as vue.
Si, ça me dit quelque chose. Ouais. Bah, de
C'est
toute
une
façon, ça
vidéo.
tourne.
Ouais, c'est une vidéo qui mériterait d'être bien écoutée parce que il est clair dans ses propos et il donne vraiment un éclairage très précis. Voilà, pour ce sujet.
Ok.
Oui, Natacha
Oui,
Polony.
c'est ça, voilà, Natasha Polony. Je savais que ça avait un peu une consonance de prénom russe, mais je sais pas.
Oui, c'est une bonne journaliste aussi.
Oui, qui d'ailleurs a été mis de côté par rapport à ça, justement.
Oui, ben, c'est vrai qu'elle a l'air. Ben, il semble, hein, il semble qu'elle ait envie d'être, comment dire, de faire des interviews et de dévoiler la vérité, quoi, de mettre en lumière ce qui ne va pas. Et bon, elle a du travail, mais bon, je pense qu'elle le fait de façon intéressante et elle a beaucoup de talent. Je remarque.
Eh oui. Enfin, voilà un petit peu déjà pour la première partie de ce sujet. Alors, je ne sais pas si de ton côté, il y a des soucis ou pas. Parce que par moments, ça coupe. Ça me dit qu'il y a la connexion qui est un peu médiocre. Alors, peut-être qu'il y a du monde aujourd'hui, je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être l'approche de la tempête Miguel qui commence déjà à faire des effets sur le... Je ne sais pas, je dis ça comme ça parce que bon, il y a des moments, ça coupe un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave par rapport à ça. Sinon, par contre, l'autre sujet, c'est parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber qui est allé à Prépiat, donc du côté de Tchernobyl, et qui a été dans la zone qui est interdite, hein, on n'a pas le droit d'y aller. Il a eu les autorisations et donc il a filmé en fait cette ville qui a été donc évacuée peu de temps après la catastrophe de Tchernobyl. Et si tu veux, je pourrais te passer la vidéo parce qu'honnêtement, c'est un très bon truc, un très bon reportage fait par un YouTuber. Et dedans, ça met vraiment en valeur le côté, bah, 30 ans, plus de 30 ans après, l'état de la ville. Hein, c'est vraiment l'état sauvage qui est revenu. C'est vraiment choquant. C'est comme si on se disait, si l'humanité disparaît, bah, en fait, la nature continue à vivre, à reprendre ses droits. Quoi. Ça fait vraiment toute une émotion derrière. Alors peut-être que c'est encore plus prenant, c'est ce qu'il disait, que lui, le fait d'être là-bas. Il avait vraiment l'émotion qui était vraiment très présente parce qu'on se dit, bon, déjà, par rapport à la catastrophe. Et puis le fait que bah, ça a été évacué, toute une ville, hein, de plusieurs milliers d'habitants qui sont partis du jour au lendemain et qui ne sont plus revenus. Parce qu'au début, ils avaient dit qu'ils reviendraient au bout de 3-4 jours, sauf que bah, plus de 30 ans après, ils ne sont pas revenus. Et donc, on a vu les endroits aussi hautement radioactifs. Qu'il a présenté, notamment les habits des fameux pompiers qui ont intervenu sur l'accident. Et quand tu vois, quand ils ont le compteur qui comptabilise la radioactivité, qui s'est monté à plus de 2000 fois la radiation naturelle, plus de 30 ans après, tu te dis qu'en fait, ces gens-là, en fait, ils sont allés à la mort sans qu'ils le sachent, quoi. Je trouvais que c'était un très bel hommage pour ces personnes, hein, qu'il indiquait comme étant des héros, et puis même toutes les autres personnes qui sont intervenues pour faire le sarcophage et tout. Je trouvais que c'était un très bel hommage aussi pour ces personnes-là qui, grâce à eux, on a évité une énorme catastrophe. Hein, parce qu'il y a une série qui tourne actuellement sur HBO, qui a été faite par HBO, qui s'appelle aussi Tchernobyl, qui met en valeur justement tout ce déroulement-là, et a priori, ça risque d'être une série, la série de l'année 2019, parce qu'honnêtement, a priori, c'est vraiment très bien tourné, les jeux d'acteurs et tout ça sont très bons, a priori. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Mais ils font monter vraiment la tension que c'est ce qu'ils avaient peur, justement, les responsables là-bas avec Tchernobyl, c'était de la seconde explosion. Parce que la seconde explosion, elle aurait été, je ne sais plus combien de fois Hiroshima, enfin, ça aurait été une catastrophe, mais alors planétaire. Hein.
Ah oui.
Déjà, quand tu vois ce que ça causait là-bas et aussi en Europe, et notamment la France, hein, parce que je rappelle pour les personnes qui nous écoutent, qui pensent toujours que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières, faut arrêter, hein, plus de 30 ans après, c'est faux. Le nuage, on l'a bien eu sur nous. Hein. On l'a bien eu sur nous. Et même grassement. Hein. Donc, de toute façon, je pense que tu as dû sûrement avoir peut-être comme patient des gens par rapport à la thyroïde. Je pense. Oui, voilà. Malheureusement, cet accident, c'est pas anodin par rapport à ça. Hein. Voilà. Donc, je sais pas comment toi tu ressens par rapport à cet accident qui s'est quand même passé il y a plus de 30 ans, mais je pense qu'il y a quand même un devoir de mémoire par rapport à ça aussi, hein, à garder.
Bien sûr que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Bon, je ne connais pas vraiment et les conséquences, je ne suis pas trop intéressé, sauf que j'ai ça en mémoire, je me souviens très très bien quand la catastrophe a eu lieu. Et bien sûr qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Quoi. C'est vrai que c'est une catastrophe qui aurait pu être bien pire, même si c'est déjà énorme ce qui s'est passé. Et comme tu le dis, en ce moment, la radioactivité est toujours présente sur les lieux, non ? C'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, je précise que sur tout ce qui est en extérieur, en fait, la poussière, ça a été enfoui. Hein, la radioactivité environnante, elle est redescendue à des seaux, on va dire, acceptables. Mais tu as des endroits dans des bâtiments où tu exploses les scores en radioactivité. Notamment, bon là, ils sont allés dans des endroits vraiment très, très spécifiques. Hein. Il y avait un laboratoire avec des choses qui ont été prises en prélèvement sur le lieu du site. Bon, forcément, ça explose les scores. Hein. Mais comme ils disaient, ils sont juste restés là 2-3 minutes, pas plus, parce que sinon, après, il y avait un risque élevé, quoi. Mais tu as des endroits, par exemple, une forêt, qui est totalement interdite de s'arrêter. Ils se sont arrêtés, ils ont juste fait sortir le compteur. Déjà, ils étaient à 200, entre 200 et 500 fois la radiation naturelle. Donc, cette forêt-là, malheureusement, elle est toujours radioactive. Pourquoi elle est radioactive? C'est parce qu'en fait, il a un petit peu expliqué. C'est que l'armée a abattu des arbres et ils les ont enfouis. Et en fait, ils gardent leur radioactivité qui est toujours présente. C'est pour ça que... Comment elle s'appelle, cette forêt je sais plus, c'est la forêt brune ou un nom comme ça. Je sais plus trop exactement le nom, mais elle, malheureusement, elle a subi le plus gros contenance de la radioactivité. Et c'est pour ça que quand tu rentres sur cette zone interdite, il est formellement interdit de s'arrêter à cet endroit-là parce que là, tu as des taux de radioactivité immenses, quoi. Si tu fais que de passer en voiture, le risque est assez limité. Voilà. Bon. Après, moi personnellement, je ne sais pas si j'y serais allé parce que même si on me dit que c'est acceptable, chaque corps humain est différent. Donc chaque personne réagit différemment à la radioactivité. Tu en as certains avec des taux qui disent acceptables, mais ils risquent peut-être de déclencher quelque chose. Voilà. Mais bon, plus de 30 ans après, c'est toujours bien présent, quoi.
Et ouais, c'est normatif. Hein. Alors moi, je ne suis pas très expert, je ne suis pas du tout expert dans ce genre de choses, mais je me demande une chose, c'est que finalement, donc les arbres repoussent, la nature oui. reprend ses droits, mais la radioactivité demeure. C'est ça qui est...
C'est ça.
Mais la nature reprend ses droits. Et la nature repousse, les arbres repoussent, tout repousse, quoi, c'est
oui.
ça.
Oui, c'est ça. Et alors, dans ce reportage-là, il ne le montre pas, mais j'ai vu à d'autres endroits, d'autres reportages, où il montrait des animaux et tout ça. Et pourtant, les animaux sont dans des zones qui sont dites hautement radioactives. Et pourtant, ces animaux-là ne présentent pas de malformation à ce niveau.
Ouais, de symptômes particuliers.
C'est ça.
Et est-ce qu'il y a des gens qui habitent là, dans ces zones?
Alors, dans la ville de Prepiat, non. Il n'y a plus personne parce que c'est une zone vraiment interdite, sinistrée. Hein. Mais par contre, à plusieurs kilomètres, donc c'est quand même encore dans la zone interdite, c'est ce qu'il expliquait, ils étaient hébergés dans des hôtels, il y a des restaurants, il y a des boutiques, il y a des gens qui habitent encore. Il a dit, c'est ça qui est étrange, c'est qu'il y a quand même des gens qui restent encore là, quoi, malgré la zone interdite.
Bon, et est-ce que ces gens souffrent?
Non.
Ou présentent des symptômes?
Non. A priori, non.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Bah, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils arrivent mieux à résister? Alors, après, les taux de radioactivité, là où ils sont quand même très bas. Hein. Voilà.
D'accord. Parce que la radioactivité, là, j'arrive pas à dire ce mot du premier coup. Hein.
Oui.
Il me faut me reprendre à chaque fois. La radioactivité, il y en a partout. En fait,
oui. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qu'à un moment, un médecin radiologue lui expliquait. Il a dit, la radiation ou radioactivité, il y en a partout hein, sur Terre. Les rayonnements solaires envoient justement de la radioactivité. Hein. Tous les jours, on en a, sauf que ce qu'ils appellent taux acceptable, c'est aux alentours de 1 millisievert, un truc comme ça, 1 ou 2 millisievert, je ne sais plus exactement, j'ai plus trop les valeurs exactes.
Oui.
Mais voilà, on est irradié en permanence. Alors bien sûr, sans compter les satellites, les antennes Wi-Fi, les antennes relais, enfin bon.
Ben oui, parce que on baigne complètement dans des mers d'ondes toutes sortes.
Oui.
Nos corps sont traversés par des ondes de toutes sortes. Il y a toutes sortes d'ondes. Je serais incapable de dire les noms et de les énumérer, mais il y en a énormément, énormément. Mmh. Et constamment, on est traversé par ces ondes.
C'est ça.
Alors. C'est vrai que, comme ça, d'emblée, si je te pose la question, quels sont les symptômes? On n'en sait rien.
Non.
Hein, chacun continue de vivre. Et puis on a l'air que, bon, les gens n'y pensent même pas, hein. Mais pourtant, on est mitraillé par des ondes, mais traversé de toutes parts. Alors, malgré tout, il y en a beaucoup qui mettent les gens en alerte parce que il y a des symptômes quand même qui arrivent maintenant. Il y a des maladies qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en gros, ce que j'ai compris un petit peu, parce que moi je ne suis pas scientifique, mais j'écoute et je lis, je regarde un peu ce qui se passe. Mais en fait, la plupart de ces ondes font en sorte de nous enlever notre capacité à réfléchir ou capacité à avoir du discernement. Et c'est vrai que c'est très pratique dans les moments de vote, hein, quand il s'agit d'aller voter. Donc, est-ce que les ondes n'ont pas cette utilité pour certains? Voilà, la question que je me pose, je dévie un petit peu, mais voilà. Alors, est-ce que c'est vrai que la radioactivité, c'est dangereux parce qu'on sait que ça provoque des décès, des morts, des maladies, etc., toutes sortes de choses. Mais les ondes dans lesquelles on vit, parce qu'il y en a partout. L'autre jour, on est allé à Grenoble. Et en voulant me connecter sur Wi-Fi, donc là où j'étais, j'avais un truc, il y a au moins 20 ou 30 réseaux autour de nous, quoi. Ça fait peur. Là où j'habite, il n'y en a pas. Il n'y a que le nôtre. Et quand on éteint le soir, ben on n'a plus de réseau Wi-Fi qui nous traverse. Déjà, on se sent un peu mieux, mais c'est vrai qu'on se sent mieux. À Grenoble, j'étais pressé, j'étais très heureux parce que j'étais chez ma belle-fille, puis il y avait le petit-fils qui était là, qui venait d'être. Je suis grand-père depuis même pas un mois.
D'accord, ben, félicitations alors.
Merci. Donc on était très heureux d'être chez eux, tout ça. Mais en même temps, j'étais oppressé. Et on ne peut pas savoir si c'est les ondes, je ne sais pas. Mais moi, j'étais mal comme tout, quoi. Je me sentais mal. Hein. C'est vrai et à la réflexion, j'ai bien l'impression que c'était toutes ces ondes multiplié là par je sais pas combien, c'est affolant quoi.
Et oui,
Donc
parce que comment dire, on parle des antennes, enfin des Wi-Fi et des antennes en relais, mais ce qu'on oublie souvent, et c'est ce que m'avait dit Yann Lipnik, on oublie les téléphones sans fil. Il a dit, les téléphones sans fil sont 10 fois pire que le Wi-Fi, parce qu'il disait qu'ils travaillent sur des ondes basses, donc elles traversent plus la matière.
Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui, ben on les utilise aussi, voilà,
C'est
c'est vrai.
ça. Moi, personnellement, chez moi, j'en ai pas. Et
Voilà.
c'est vrai qu'entre le moment où j'en avais un et au moment où je l'ai supprimé dès qu'il m'a dit ça, j'ai
Ah,
senti déjà une différence.
il y a eu une coupure. Il y a un deuxième.
Ah,
Oui,
voilà.
sans doute, sans doute. Ouais. Là, il y a des coupures, Cédric. Hein.
Ouais, moi aussi, de mon côté, un petit peu. Bon, tu vois, là, le réseau, pourtant, c'est pas du réseau Wi-Fi, mais ça bug un peu.
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a toutes ces ondes. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors maintenant, il y a la 5G qui va
Oui,
arriver.
alors là, oui. Oui, là, il y a
C'est une
déjà
vraie
des
catastrophe.
scientifiques.
Hein. C'est la 4G multipliée par 10 ou 20, je ne sais plus combien. Et donc, ça va être un vrai désastre pour la santé des gens, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Oui, il y a des scientifiques qui ont commencé à une levée de boucliers là. Et puis je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'elle est bien implantée. Parce que là, la 5G, il y aura des relais partout, 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 quoi. On va être mitraillé.
C'est ça.
Et paraît-il, elle est beaucoup plus puissante. Voilà, donc c'est. Voilà. Alors comment allons-nous faire pour nous débarrasser de ça?
Alors de ce que j'en ai compris, un peu, c'est un peu comme la radioactivité, hein, c'est des coups par minute. Et la 5G va avoir des coups par minute beaucoup plus importants et assez intenses. Le seul problème, c'est que par rapport à la 4G, c'est que la 5G, il va falloir plus d'antennes parce qu'elle va beaucoup moins loin. Ça a beaucoup moins de portée. Donc, ce qui fait que pour une antenne 4G, il va peut-être falloir 4 à 5 antennes 5G. Je sais pas si tu t'imagines déjà. Voilà.
Là, j'ai pas compris parce qu'il y a eu une longue coupure.
Ah. Donc, je disais que pour la 5G, donc les coûts par minute, hein, c'est exactement comme la radioactivité. C'est que ces coûts par minute vont être beaucoup plus importants et intenses que la 4G.
D'accord.
Mais le gros désavantage de cette 5G, c'est qu'elle aura une portée qui sera moins longue. Donc, ce qui fait que pour une antenne 4G, il va falloir à peu près entre 3 à 4 antennes 5G pour couvrir le même secteur.
Oui, oui.
Voilà. Je te dis pas comment ça va être enfin, le gros bordel, quoi. Les scientifiques, par contre, là, commencent à être vraiment très en alerte. C'est que ils ont remarqué qu'avec la 5G, ça perturbe énormément tous les animaux, notamment les insectes.
Ah, oui.
Et là, ils disent que là, il va falloir vraiment stopper ça parce que là, on va vers la catastrophe directe.
Ah ouais.
Direct. Donc, si déjà sur les insectes, ça leur, en fait, le truc c'est que ça leur fait chauffer les antennes. Tu sais, les insectes, ils ont une communication par les antennes, et ça leur fait chauffer les antennes et ça les tue.
Ah, ouais.
Et donc, si ça arrive déjà à tuer des insectes, j'ose même pas imaginer ce que ça va faire sur des êtres humains ou des animaux.
Et oui.
Voilà. On parle de Tchernobyl, mais là, on va avoir un Tchernobyl qui va nous pulvériser pour.
Généraliser.
Ouais, et surtout pour. C'est ce qu'il y en a plein qui disent, la 5G, il n'y a aucune utilité de l'avoir. Il n'y a pas d'utilité de l'avoir. La 4G, ça suffit largement.
Bah, oui, la 3G, c'était pas mal non plus.
Oui. Oui, déjà, les débits de 3G sont déjà plus importants que le débit de ma connexion ADSL que j'ai. Donc, c'est pour dire.
Oui, oui, c'est certain. Non, mais c'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir plus de connexion. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière de.
Si. Malheureusement, si. Malheureusement, si.
Oui, certainement.
Mais même certains pensent que ce serait des armes électromagnétiques. Bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est une autre histoire, mais bon, ça laisse à réfléchir quand même de pourquoi ils veulent quadriller à ce point-là. Et puis, c'est surtout que, comme je te dis, déjà une antenne relais, ça coûte déjà très cher. Mais là, pour couvrir le même secteur, il va en falloir 3 ou 4, voire peut-être 5, hein, suivant les endroits où ça va être. Donc, oui. D'où c'est qu'ils sortent ce pognon?
Ah ben voilà, oui, voilà. Oui, c'est aussi une question, effectivement. Oui, parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile, alors que les gilets jaunes, la plupart, ils se sont manifestés, ils ont commencé à manifester parce qu'ils ne pouvaient pas joindre les deux bouts.
C'est ça.
Et là, il y aurait de l'argent à mettre pour aider beaucoup de gens, quoi. C'est sûr. Au lieu de faire la 5G, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire en urgence.
Oui, moi je dirais si au lieu de mettre cet argent là dans ces antennes on les mettait déjà pour entretenir les centrales nucléaires, ce serait déjà pas mal.
Oui, oh, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, bon, enfin voilà.
Oui.
Et bien sûr que nos élites ont d'autres objectifs en vue.
Oui, ça comme un peu malheureusement depuis très longtemps.
Et oui.
Quoi de mieux de faire passer une arme comme un outil qu'on utilise tous les jours. Voilà.
Voilà.
Parce que le téléphone portable, il y a 30 ans de ça, c'était les limites des cabines téléphoniques. Maintenant, c'est des ordinateurs de poche. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, ouais. Mais on change de monde là, à l'heure grand V, quoi. Bien sûr. Moi j'ai été un des premiers à utiliser le téléphone portable parce que je gérais des affaires et j'étais souvent dans la voiture avec, en dictant des lettres tout en conduisant. Il faut le faire.
Mmh. Oui.
Donc j'avais un téléphone portable qui était très gros. Il était très gros. Et c'était dans les années 90. Non, c'était, oui, en 90.
Oui, en 90, voilà. Oui.
Ouais. Il y a donc quand même pas mal d'années. Hein. Ça fait quoi? Ça fait presque 30 ans. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens, le premier que j'ai eu, hein, déjà les abonnements, ça coûtait une fortune. Et puis tu payais à la minute, déjà. Tu payais à la minute. C'était un Nokia 1611, je crois.
Ah oui, je me souviens plus de ça, mais moi, je sais que j'étais un des rares à avoir ce téléphone. J'étais toujours dans ma voiture. Enfin bref, voilà, je me rappelle de ça. Et ça marchait bien.
Oui.
Ça marchait bien.
Ah oui, ça marchait bien.
Quand il n'y avait pas ça, il y avait les cabines téléphoniques et ça allait très bien aussi.
Hein. Ouais. Et justement, avant les téléphones mobiles comme ça, il y avait ce qu'ils appelaient. Comment ça s'appelait à l'époque? Ça s'appelait les Bebop.
Ah oui.
Je crois. Et ça ne marchait qu'en ville, avec des antennes qui étaient localisées. Et justement, bizarrement, ça fait penser un peu du 5G, ça.
Ah oui, d'accord.
Bon, c'est pas du 5G pourtant, mais C'était vraiment des trucs où ça marchait qu'en ville, hein. Ça avait une portée de, je sais pas, peut-être 500 mètres, un truc comme ça, je crois. C'était vraiment dérisoire, quoi.
Et oui. Donc, bon, ben, on est en train de dire des choses qui sont pas très sympathiques, hein, qui sont pas
oui.
très encourageantes.
Oui, mais bon, qui sont quand même importants aussi de se rappeler pour éviter de répéter
oui, c'est sûr.
Ces erreurs.
Oui, oui. Alors, moi, en général, ce que je pense de ce qui se passe et de ce qui peut se passer dans les mois à venir, là, c'est sûr que on ne voit pas de choses très optimistes qui peuvent arriver. Il est possible qu'on aille vers une guerre civile, il est possible qu'on aille vers une guerre totale, il est possible qu'on aille vers des gros problèmes, des conflits. Par exemple, l'Italie va très mal sur un plan de la finance, hein, très très mal. L'euro va très très mal aussi. Donc l'euro pourrait arriver à s'effondrer. L'Allemagne pourrait nous surprendre et sortir de l'Europe, par exemple. Pour elle, ça l'arrangerait, hein, j'imagine, d'après
oui.
ce que j'ai compris. Donc, il peut arriver comme ça des événements tout à fait imprévisibles, et ça sera imprévisible, et ça va nous arriver comme ça soudainement. Choses qui ne vont pas être très agréables à vivre. Et ça peut être des choses vraiment très très désagréables à vivre. Ça
Oui,
pourrait.
oui.
Il se pourrait bien. Moi, malgré tout, je garde un espoir, je garde beaucoup d'espoir. En fait, moi, je suis très optimiste, mais mon optimisme est quand même calculé, réfléchi, et à mon avis, tout à l'heure, je parlais de démocratie. J'ai comme l'impression que cette démocratie dont je rêve, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait peut-être, dans un certain temps, après qu'on ait vécu ces choses un peu difficiles, c'est peut-être quelque chose qui pourra se mettre en place, tu vois. Tu as vu le film La Belle Verte?
Oui, je l'ai vu, oui.
C'est souvent ce film, moi je l'ai vu plusieurs fois, d'ailleurs j'ai envie de le revoir là, parce que c'est tellement rafraîchissant, ce film. Eh bien, ce film, il faut l'avoir en mémoire, parce que c'est quelque chose comme ça qui, j'espère, et je le pense, hein, qui nous attend. Pas tout de suite, hein, mais on ne sait pas, les choses peuvent se précipiter. Alors, est-ce que ça va se passer en France, en Europe? Bref, ça va se passer. Bon, mais comme il semble que c'est en France que les choses vont arriver en priorité, parce que la France, c'est la France, alors pourquoi? Bon, pour toutes sortes de raisons, dues à l'histoire, à la spiritualité, aux religions, bref. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est la France qui est ciblée, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est pourquoi on a dans notre tête le plus talentueux dans ce genre-là. Hein.
Oui.
Et donc, la France est en train d'être un peu détruite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tout pourra s'arranger. Et moi, j'ai espoir, hein, qu'un jour, on puisse se trouver dans un monde. Alors, je sais pas si on va le connaître, nous, mais je sais pas. Mais vivre dans un monde un peu à l'image de la Belle Verte. Un peu à l'image de la Belle Verte. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Mais quelque chose qui ressemblerait à cette démocratie que j'espère, moi. Tu vois, voilà.
Ouais.
Où le peuple décidera par lui-même. Parce qu'il y a une chose. Il y a une chose qui est importante. C'est que je crois on se dirige vers un monde où les gens vont prendre la responsabilité, chacun. Tu sais. Donc, c'est un meuble, c'est un temps, justement, qui sera donné à cette démocratie. Hein. La démocratie, c'est la liberté, la responsabilité de chacun. Et moi, je suis persuadé que cette responsabilité est en train de naître. Et les Gilets jaunes ont donné un petit coup de pied dans la fourmilière, là. Il y a quelque chose qui a pris naissance, là.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors moi, j'ai bon espoir, même si, je le répète, dans les mois qui viennent, on peut s'attendre à vivre des choses pas très agréables. Et je ne vais pas dire ce qui peut arriver. J'ai quelques idées, mais enfin bon, comme c'est, hein, je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Soleil, même si je suis astrologue. à temps perdu. Et plus qu'à temps perdu, parce que presque à temps plein en ce moment, parce que je suis beaucoup demandé. Mais en fait, c'est un sentiment que je ressens, quoi. C'est quelque chose que je ressens. Voilà. Donc je suis optimiste, mais pour de bonnes raisons.
Oui, moi c'est un peu pareil, hein. Je sais que cet été ça va pas mal bouger, ça va pas mal swinguer aux États-Unis. Hein. Il y a beaucoup de vérités qui vont commencer à éclater de partout. Beaucoup de gens risquent de tomber de haut.
Ah
Voilà.
ben, c'est sûr, c'est sûr.
Notamment des gens qui vénèrent des stars et tout ça, bah, vont passer du côté star à être ras du sol. Voilà. Mais
Oui.
bon.
On est à l'époque où les mensonges tombent. Je l'ai dit depuis déjà des mois. On est à l'époque où la vérité va éclore. Elle va jaillir de partout. Donc il y a des vieux mensonges, il y en a beaucoup, qui vont maintenant se tourner vers la lumière, quoi. Donc il y a des mensonges il y en a des mensonges encore.
Ah oui, il y en a un paquet, hein.
Les gens sont encore construits par des croyances dont il ferait bien de se débarrasser. Il y a beaucoup de croyances comme ça, sur le plan médical notamment, ou bien sur le plan de la politique, et beaucoup de choses. Effectivement, donc c'est vrai que, et ça va être, c'est très intéressant l'époque que nous vivons. C'est plus qu'intéressant, c'est passionnant à souhait, c'est passionnant. Les mensonges vont tomber, les mensonges vont tomber, et ils tombent tout le temps. On découvre tout le temps des choses, hein, qui arrivent, c'est
Ah
passionnant.
oui, tous les jours.
Ah oui, ah ouais. Voilà, donc moi c'est ce que je c'est mon sentiment. Je suis optimiste, mais bon, il faut vivre au jour le jour, je crois, et puis laisser les choses venir, et voilà.
Ouais, bah c'est vrai que ça, on se rend compte de, au fur et à mesure, on se rend compte justement de ce truc de vivre au jour le jour. Et moi, honnêtement, quand j'observe depuis déjà quelques temps, je remarque vraiment que là, on est vraiment dans la période de l'apocalypse. Hein. Apocalypse qui ne veut pas dire Armageddon, qui veut dire justement une suite de révélations. Et c'est vrai que la révélation des vérités et tout ça, bah, ça enchaîne, hein, ça n'arrête pas. Hein.
Oui, oui, ça n'arrête pas. Ah, c'est sûr que on va avoir des drôles de surprises, hein, quand on va découvrir certaines choses.
Oui, je
Merci.
pense que pour nous. Et pour les personnes qui sont déjà conscientes de ce qui se passe, ça va plus ou moins les choquer parce que vont se dire, ça va plus les conforter, dire bah oui, j'avais raison, je m'étais pas trompé. Que les personnes qui sont encore la tête dans le sable, quand ils vont la sortir de la tête de leur trou, hein, comme les autruches là, ça risque de leur faire drôle quand même. Hein. Je
Mais oui, mais
pense que là, tout ce qui est thérapeute et tout ça vont avoir beaucoup de travail. De
oui.
consolidation de ces gens qui vont perdre tous leurs repères, quoi.
Oui, mais je remarque aussi, oui, c'est vrai. Et je remarque de notre côté que des gens qui étaient complètement coincés dans des vieilles croyances, comme la plupart des gens, les gens qui vivent normalement, qui regardent la télé. Et bon, on est complètement nourri par toutes ces croyances voilà, qui nous empêchent de vivre. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et ce que je réalise, c'est que quand il se trouve comme ça, par des circonstances, qu'on se trouve avec des personnes et puis qu'on commence à leur dire des choses qui les surprennent complètement, eh bien, à mon grand étonnement, mais je suis surpris depuis déjà des mois, ça se passe. Eh bien, les gens d'un coup marquent leur surprise et rapidement adoptent ce que je leur dis, quoi. Prennent des nouvelles croyances sans trop rechigner, quoi.
C'est vrai.
Ça leur fait bizarre, mais disons qu'il n'y a pas de résistance tellement. Et ça c'est tout à fait extraordinaire. C'était pas le cas il y a 10-15 ans,
Ouais,
impossible.
c'est vrai, c'est vrai.
Et là, c'est tout à fait étonnant. Et des gens, c'est comme si beaucoup de gens étaient prêts à recevoir justement ces vérités qui risquent de les déstabiliser, mais en fait, ils ne vont pas vraiment les déstabiliser. Au contraire, ils vont les éclairer, hein, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je le remarquais encore hier soir, j'étais avec quatre personnes des gens magnifiques, des gens comme tout le monde, quoi, qui ont des professions diverses, rien d'extraordinaire. Mais ils ont découvert, on a parlé pendant 2 ou 3 heures, et ils ont été complètement passionnés par des choses que je leur apprenais. Enfin, il se trouve que je leur ai appris des choses, hein. Ils m'ont appris aussi des choses dans un autre domaine. Chacun un peu
Oui,
apprend.
c'est un
Mais
échange.
ils ont été, je les ai revus ce matin, ils étaient complètement, comment dire, acquis à à ces nouvelles croyances, quoi. Et heureux de partir avec ces nouvelles croyances, hein. Et ils n'ont pas du tout rué dans les brancards comme beaucoup auraient fait il y a 10-15 ans encore, quoi. Ça, c'est passionnant de voir ça, tu vois. Donc, et c'est ça qui fait que c'est encourageant. Tu vois, le monde va changer rapidement, mais dans le bon sens, à mon avis.
Ah mais moi je le remarque, il y a vraiment un éveil qui se fait, mais il y a quand même un fossé qui se creuse. Il y a ceux qui s'enterrent vraiment dans les profondeurs, et t'as ceux qui étaient en demande d'information, qui là commencent à sortir de leur chrysalide, quoi. C'est hallucinant comment ça se fait, quoi.
C'est vrai. Et les dernières élections sont un peu révélatrices de quelque chose, justement, qui vont dans ce que tu dis, dans le sens de ce que tu dis. C'est vrai que les gens s'accrochent à leur truc, mais ils s'accrochent à quoi? Ils s'accrochent à leur argent. Regarde, ceux qui ont voté Macron, ce sont
Oui,
des gens qui s'accrochent à leur argent.
c'est ça.
Ils ont peur, s'il y a un nouveau, ils ont peur de perdre leur argent. Tu vois?
Oui.
Mais si c'est que ça, c'est pas dangereux. Pas dangereux. Bon, ils vont le perdre de toute façon, cet argent.
Oui, bah ça, comme disait ma mère, un corbillard n'a jamais été suivi d'un coffre-fort.
Exactement. Non, c'est exactement. D'ailleurs, c'est ce que je disais à quelqu'un. Je disais, tu m'expliqueras comment, quand tu seras mort, tu vas emporter tout cet argent, parce que moi, j'aimerais bien savoir. Eh oui, bien sûr.
C'est ça.
Voilà. Donc, ouais. Donc, les comment dire, me font prospérer dans cet élan d'optimisme qui m'habite, quoi. Ouais.
D'accord. On arrive justement à la fin de cette émission. Alors, pour toi, quel serait un petit peu le mot de la fin pour conclure cette émission du mois de juin?
Ben, voilà, je viens de le dire, c'est de dire, c'est vrai que les nuages noirs arrivent, hein, on sent arriver des tas de choses si on regarde bien. C'est sûr que si on regarde la télévision, on ne comprend pas bien ces choses, mais si on regarde d'autres infos, on s'aperçoit que les nuages commencent à s'amonceler sur nos têtes, et puis bon, ça n'a pas l'air d'être très réjouissant, mais malgré tout, je sens que d'un autre côté, il y a beaucoup de lumière qui jaillissent des cœurs de beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Donc il y a un grand espoir qu'il faut garder, grand espoir d'un nouveau monde qui est en train de se faire. Alors combien ça va se faire? Est-ce que ça va se faire en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Je peux pas le dire, je sais pas. Mais moi, j'ai un grand espoir, je garde un grand espoir, je suis très optimiste sur le devenir de notre France, parce qu'elle est en train d'être massacrée, mais c'est pas grave, tout peut se réparer. Tout peut s'arranger un jour ou l'autre. Donc voilà, il faut garder espoir. Voilà, il faut garder espoir et puis garder le sourire.
D'accord, ok, eh bien merci pour ce mot de la fin, Jean. Bon, bah, on se retrouvera peut-être pour une autre émission au mois de juin, je te tiendrai au courant, hein, parce que je rappelle que pendant le mois de juillet et août, il n'y aura pas de direct pour l'émission Spiritualité en question, et ainsi peut-être que d'autres, hein, tout dépendra en fait de l'organisation de nos animateurs. En tout cas, merci pour cette émission, Jean, et puis bah, je te donne un rendez-vous à très bientôt. Hein, peut-être au mois de septembre ou encore pour une autre émission au mois de juin pour conclure ce premier cycle de cette année 2019.
D'accord, à très bientôt.
Allez, à très bientôt Jean, bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Voilà, donc cette émission touche à sa fin, hein, cette émission du mois de juin. Donc comme je vous l'avais dit, il y aura peut-être une autre émission qui se fera au mois de ce mois-ci. Sinon, s'il n'y aura pas d'autre, eh bien, ça se reportera donc au mois de mois de septembre, hein, comme je le rappelle, hein, il n'y aura pas d'émission pendant le mois de juillet et août. Je vous dis à très bientôt et passez très bonne fin de semaine.